Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irong Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois Jean Bamanissa Saïdi, président d'Expo Béton. Il est aussi gouverneur, député honoraire et homme d'affaires. Il s'exprime sur la 5e édition d'Expo Béton qui s'est tenue à Kinshasa du 1er au 4 décembre 2021. Il aborde aussi les grandes questions liées au développement des villes congolaises. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Jean Bamanissa, bonjour.
Oui, bonjour Alain.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Ensemble, nous allons parler de la 5e édition du salon Expo Béton qui s'est tenu à Kinshasa du 1er au 4 décembre 2021. Pour commencer, parlez-nous d'abord de la genèse de cette idée d'Expo Béton.
Effectivement, dans l'histoire un peu de mes différentes activités, la question de la construction, la question des développements de villes, de l'urbanisation, de création des pôles m'a toujours trotté l'esprit. Vous savez, je me rappelle qu'en 1987-88, j'écrivais déjà au département ministériel à Kinshasa pour leur demander de se focaliser sur la mise en place des pôles de développement, des malls, comme on voyait l'exemple. Exemple en Afrique du Sud, qui ont permis à ce que des centres de croissance et d'activité puissent se faire. Il n'était pas normal qu'on quitte à l'époque l'UPN pour aller en ville et traverser toutes ces grandes zones, que ce soit Ozone, que ce soit Delvaux, que ce soit ma campagne, Kitambo, pour arriver en ville pour acheter son pain. Et donc, déjà très jeune, la question de l'aménagement du territoire me trotte bien. Peut-être le fait d'avoir vécu à Kisangani, où on a hérité quand même d'une ville qui a été très très bien urbanisée, le noyau de Kisangani, m'a laissé beaucoup de traces. Donc les questions de construction, j'ai mis en place par exemple à l'Assemblée nationale la commission d'aménagement du territoire qui devait fonctionner justement sur la réflexion, parce que j'ai toujours une approche, c'est vrai, du futur, parce que il faut préparer le futur, et pour préparer le futur on a besoin des jeunes entrepreneurs, des jeunes architectes, ce que nous appelions à l'époque les architectes du futur. Et puis je suis rentré dans le domaine des matériaux, du ciment notamment, parce qu'on ne peut pas parler de construction sans ciment. Et là, vous savez que je suis promoteur de l'entreprise PPC, avec les ciments PPC. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé depuis 2004. Et aussi, depuis 1994-1995, je fais des propositions sur le développement de la ville de Maluku. En 2001, je l'ai exposé devant le gouvernement central pour qu'on développe Maluku, Kimpese et Banana, suivant une logique. Mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup suivi. J'ai fait toutes les études pour arriver à la zone économique spéciale de Maluku. C'est vraiment la jeunesse de ce dossier gelé et puis la promotion. J'ai un bureau d'études qui s'appelle Congo Partenariat Développement Conseil, qui fait beaucoup d'études et de conseils et d'orientation différents secteurs publics.
Ça, c'était la 5e édition du Salon Expo Béton. Parlez-nous des 4 premières éditions, évidemment, brièvement.
Oui, lorsque nous avons lancé les cimenteries, il y en a eu 3 d'un coup. Et donc, la production est passée de 450 000 tonnes par an à 3 millions dans la partie ouest. Moi, j'étais très inquiet de savoir si le gouvernement mettait en place des programmes de consommation, donc de grands travaux, qui puissent demander justement les architectes, les ingénieurs, la planification au niveau des entités territoriales décentralisées, pour qu'on puisse, à partir de ces matériaux, réaliser vraiment des œuvres. Et en 2016, nous avons lancé cette réflexion, parce que la Corporation des architectes me connaît très bien. On a beaucoup milité aussi pour leur organisation à travers la Commission de l'aménagement du territoire. Donc en 2016, on a voulu réveiller les intérêts des uns des autres, et on a parlé encore de Kinshasa. En 2017, on a parlé sur la planification de l'occupation des zones industrielles et urbaines des agglomérations de la RDC. Et j'ai eu l'occasion même de présenter cela à Indaba, à Kolwezi, parce que l'approche des constructions des cités autour des mines devait être revue, que d'avoir des compounds, mais il fallait faire des cités intégrées avec les populations. En 2018, nous avons parlé d'un sujet qui est toujours dormant dans des tiroirs depuis des très très longues années, donc qui part de cette idée de Maluku, Kimpese, Banana, et nous avons voulu voir un peu plus loin. C'est un dossier dormant, je le dis. Les Sud-Africains prennent en charge une petite direction au ministère de l'Industrie depuis près de 10 ans sur le corridor ouest de la RDC. Le corridor ouest de la RDC, comme nous l'avons décrit, c'est Kinshasa, Kimpese, Luanda, Luanda qui remonte par la mer jusqu'au niveau de Pointe-Noire et qui touche le Gabon et qui revient sur Brazzaville, Kinshasa. Cet triangle ici que nous appelons le corridor ouest est un véritable triangle d'avenir. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie, sous le haut patronage du chef de l'État, a lancé cette manifestation de volonté de transformer, par exemple, les matières premières, donc les batteries, et construire des voitures. Il faut aller vers des endroits qui peuvent nous permettre d'exporter ces produits. Et pour moi, c'est là où il y a l'électricité, c'est le projet Inga. Deux, ce sont les ports. De Luanda jusqu'à Pointe-Noire, on peut avoir 6 grands ports, Cabinda, Soyo, Banana. Au nord de Luanda, il y en a d'autres, etc. Donc, une bonne sortie de nos produits qui doivent être transformés là. Et le corridor ouest reste encore un chantier sur lequel nous devons travailler avant d'être inondé par les voisins, parce qu'aujourd'hui nous avons vu à un moment comment nous avons subi les importations ou le dumping de certains produits à partir de l'Angola, qui a aussi une politique industrielle très avancée et très incitative, ainsi que le Congo-Brazzaville, qui aussi, en même temps qu'on construisait des cimenteries, nous si on avait une capacité de 3 millions de tonnes, l'Angola en avait 8 et le Congo-Brazzaville en avait 4. Pour un si petit pays, et avec bien sûr des projections sur le Congo. Et donc nous devons nous-mêmes avoir nos projections pour nous-mêmes et pour l'exportation. Donc, Corridor Ouest, un très grand projet sur lequel nous devons nous focaliser. 2019, nous l'avons fait aussi, c'était du foncier rural au nouveau programme pour les villes avec la participation de UN Habitat ainsi que le ministère en charge de l'Habitat. Nous sommes là comme partenaires du pouvoir public ainsi que des privés pour rappeler que nous devons faire une planification de la construction et que nous devons aussi mettre en place les réformes législatives, les réformes réglementaires pour permettre à ce qu'on construise correctement. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien Kinshasa se construit à la vaille que vaille, où c'est le pouvoir public qui court derrière l'avancée de la construction et l'occupement des sols, ce qui n'est pas une bonne chose.
Pour revenir à la 5e édition 2021, le thème c'était Kinshasa, Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la ville de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce thème?
Écoutez, moi je pars de l'expérience que nous avons en tant que député, en tant que gouverneur, et avec notre arsenal juridique, je vois cette ville de Kinshasa qui est en train de s'agrandir, qui c'est vrai un moment sous les feux des projecteurs et tous les attraits politiques, grands chantiers, les 5 chantiers... toutes les lumières ont été mises sur Kinshasa, et le fait qu'on n'a pas développé les autres provinces alentour, le long du fleuve, le long de la route jusqu'au Kasaï, en passant par le Bandundu, etc., fait que Kinshasa aujourd'hui reçoit des milliers de personnes journalièrement et a une démographie qui n'est pas contrôlée, ni une occupation des sols, ni le service qui doit être rendu à cette population. Je l'ai souvent dit, attention, une cité, elle doit se gérer, elle doit se préparer. On est dans une situation aujourd'hui où il faut prendre des grandes décisions salvatrices pour permettre à ce que les gens vivent correctement. Aujourd'hui, on ne sait plus rouler à Kinshasa déjà. Je peux vous dire qu'en 2002, devant donc la commission ECOFIN du gouvernement, nous avons eu à soulever cette question. Nous avons dit, attention, dans 10 ans, on ne saura plus rouler à Kinshasa.
C'est ce qui est arrivé.
10 ans, 15 ans, quand vous prenez la carte, de Kinshasa, déjà à l'époque, vous voyez comment sont les routes. Et si on ne fait pas les routes nord-sud et est-ouest, il y avait déjà un problème. Mais maintenant, il y a l'agrandissement de la ville qui se fait aussi vers Kinsuka, donc partie l'ouest, la partie sud, Mongafu et le sud, et la partie est. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation devient encore deux fois plus grande. Et malheureusement, comme on n'a pas non plus construit nos infrastructures avec des normes, on a des routes qui s'abîment après tout passage de pluie. Et ça, c'est une des questions aussi sur lequel nous revenons dessus. Et donc, nous avons constaté que le premier problème est d'ordre législatif et d'ordre structurel, la composition politico-administrative de Kinshasa. La Constitution parle de Kinshasa comme ville et puis lui donne un statut de province.
De province.
Mais c'est une ambiguïté. Je dois vous le dire, franchement, nous devons regarder cette question. Ce sont les hommes qui ont écrit la Constitution. Pourquoi toutes les autres provinces sont des provinces composées de villes avec des communes urbaines, rurales, des quartiers, des territoires? Mais Kinshasa, siège des institutions, donc Kinshasa se retrouve avec trois statuts. Ville, province, siège des institutions. Qui dit siège des institutions dit donc fonctionnement de l'administration qui se juxtapose par rapport à celle de Kinshasa. Kinshasa n'a toujours pas de fonction publique. Donc, vous le savez que les services déconcentrés qui sont les services de tous les ministères de l'État, que nous appelons déconcentrés, mis à la disposition des gouverneurs, ont en même temps leur patron dans la ville de Kinshasa, qui sont les secrétaires généraux, ainsi que les ministres de tutelle. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement central et provincial qui se juxtapose par rapport à certaines prérogatives. La Constitution, en ses articles 202, 203, 204, est claire sur les attributions du gouvernement central, exclusive au gouvernement provincial et concurrente. Mais aujourd'hui, mon collègue gouverneur de la ville de Kinshasa a des difficultés de gérer. Il n'a pas d'administration à sa charge.
Sans vous couper la parole, les Kinois se posent beaucoup de questions sur les routes, par exemple. Qui doit arranger telle route?
Voilà.
On dit que c'est le gouvernement central, c'est le gouvernement provincial et finalement personne ne le fait.
Je me rappelle à la commission ECOFIN, j'étais en contact souvent avec le secrétaire général du gouvernement qui avait commencé un travail d'identification et de faire l'inventaire du patrimoine national et provincial. Ça fait des années, c'était 2008-2009, mais ça n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le constituant a voulu prendre des prérogatives à la province pour l'attribuer au pouvoir central, et qu'est-ce que ça donne? Donc je pense, sincèrement, après la conférence que nous avons eue, qu'il faut que nous puissions revoir les dispositions de nos lois, la Constitution, ainsi que les lois sur la libre administration des provinces, et que nous puissions vraiment appliquer la libre administration des provinces et avoir le gouvernement central qui gère l'ensemble des activités, mais qui permette à ce que le gouvernement provincial soit constitué d'un gouvernement provincial avec une administration provinciale. Donc il faut un édit sur la fonction publique. Moi, je me rappelle qu'à Kisangani, je l'avais prise. À Bunia, en Ituri, je l'ai introduite, mais l'Assemblée ne l'avait pas encore adoptée. Et je me rappelle, en 2014, je demandais déjà que le gouvernement fasse un atelier pour qu'il y ait une
uniformisation
de l'édit sur la fonction publique provinciale. Elle n'est toujours pas faite à ce jour.
C'est urgent de résoudre ce problème-là.
Franchement, avec l'expérience que nous avons, c'est très urgent pour permettre à ce que, puisque nous sommes à 95% dans la décentralisation des autres provinces, que Kinshasa aussi puisse avoir le même statut décentralisé.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Jean Bamanissa Saïdi. Il est président d'Expo Béton, député national et gouverneur honoraire. Avec lui, nous parlons de la 5e édition du salon Expo Béton qui s'est tenu à Kinshasa du 1er au 4 décembre dernier. Une autre question qui a été beaucoup évoquée à la 5e édition du salon Expo Béton, c'est la question des normes.
Avant d'arriver aux normes à l'âge, pour nous, pourquoi nous avons eu 3 pôles? 4 villes, c'était le thème de notre conférence, parce que le SOSA, qui est un outil du gouvernement provincial, qui a fait une étude, c'est vrai, inachevée, sur la planification de Kinshasa, a mis dans les détails la situation de la ville nord. Mais il reste la partie est, ouest et sud, à planifier. Mais les grandes lignes sont là. Je vous invite à consulter ces documents. C'est vrai qu'ils n'existent plus en ligne sur Internet, mais nous, on a la chance de l'avoir gardé, de l'avoir même imprimé, de l'avoir distribué, où il faut respecter ça. Donc, pour nous, le gouverneur devrait se reposer sur des maires. Les maires doivent se reposer sur des bourgmestres. Auquel cas, aujourd'hui, on se retrouve avec un gouverneur qui doit gérer les problèmes des quartiers.
Des quartiers.
Et c'est pas normal pour 15 à 17 millions d'habitants aujourd'hui. Et donc, très rapidement, je pense que nous devons revoir la structuration avec un gouvernement provincial, des maires, et nous croyons qu'il y a moyen de subdiviser cette ville-province en 4 villes constituées des communes, mais il y a des communes aussi qu'il faut peut-être fusionner et d'autres qu'il faut diviser. Maluku aujourd'hui prend 75-80% de la surface de Kinshasa et c'est là où il y aura tous les plans de l'extension de Kinshasa. Ne faut-il pas déjà le penser maintenant? Kitambo est la continuité de la Gombe aujourd'hui, où les prix deviennent trop chers à la Gombe. Ne faut-il pas aussi penser à son organisation et à son extension pour permettre à ce que les gens dans le centre-ville puissent y habiter. Et puis, ça permettrait peut-être d'avoir le gouvernement central sur l'une des villes, la ville nord, et laisser le gouvernement provincial vraiment jouir de ses prérogatives dans les autres partie de la ville de Kinshasa.
Elle est très intéressante, cette étude à laquelle vous faites allusion, mais il y a d'autres personnes qui penseraient plutôt qu'il faudrait créer carrément une autre ville en dehors de Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez?
Restons dans le périmètre de Kinshasa, 9965 km², il y a assez d'espace. Pour nous, quand on regarde cette ville, c'est Maluku, c'est la partie sud de Mongafula. Et puis, parce qu'on a, le train, on a Matadi, on a le ring qui peut être fait, qui peut rejoindre Maluku, Mongafula, jusqu'à Kinsuka et qui revient vers la ville. Donc, tout ça est déjà possible, bien étudié. Mais il faut aussi préserver les terres. Parce qu'entre-temps, les terres sont en train d'être occupées. Lorsqu'il faudra faire ces routes, lorsqu'il faudra faire les équipements pour faire les hôpitaux, les écoles, etc., on va trouver que ça appartient déjà aux gens. Il y a aussi la question de la loi sur la terre, donc le sol qui doit être éclairci parce que entre le pouvoir coutumier et l'administration centrale. Alors vous avez parlé, Alain,
de la question des normes. On construit à Kinshasa, mais dans quel état, en désordre? On a vécu ici des immeubles qui s'écroulaient, des routes qui sont construites et puis le lendemain.
Je dois vous dire que malheureusement les normes ne sont pas encore édictées. Les normes n'existent pas encore. Lorsqu'il y a par exemple un marché qui se fait, si c'est le bailleur de fonds, c'est la Banque mondiale, la BAD ou le gouvernement, chacun porte à ce moment-là ses normes. Et finalement, vous voyez, même quand on fait des travaux sur des routes, j'apprends que les sauts de moutons étaient surdimensionnés. Pourquoi tout ça? Normalement, une route, on sait le matériau qu'on peut mettre sur la route. Et c'est là où nous faisons la promotion des routes en béton. D'abord, un, parce que tous les matériaux sont là, le sable, la caillasse, le fer à béton et le ciment sont ici, disponibles. Et une route en béton dure, on a vu, on a des exemples ici de routes en béton qui n'ont jamais eu de trou, et s'il y a un trou, on le repart très rapidement. Et deux, si on suit les normes, on fait la chaussée, on fait les caniveaux, on fait les passages piétons, on fait les bacs à fleurs, on a une route qui ressemble à quelque chose. Et aujourd'hui, on a des plaquages, des matériaux qui sont faits sur les routes. C'est regrettable de voir qu'il y a des citoyens qui mettent beaucoup d'argent pour construire des immeubles qui embellissent Kinshasa, mais les voies d'accès ne sont pas assurées. Je vous assure que si on avait des normes, on respectait les normes, les routes seront bien faites. Autant mieux faire 1 km de bonne route dans les normes que d'essayer de faire 5 km de plaquages et qui vont s'abîmer 4 ans ou 5 ans plus tard.
On a des quartiers très luxueux, mais sans caniveau, et quand il pleut, c'est la catastrophe.
Oui, pourtant, dans l'immobilier, lorsqu'on construit, c'est pour que demain, ça prenne de la valeur. Mais quand les routes s'abîment, il n'y a pas les conduites d'eau, les conduites d'électricité, des câbles fibre optique, etc. On doit creuser une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai visité l'Afrique du Sud en 86 et j'ai eu beaucoup d'expériences. Je voyais comment est-ce qu'on planifiait les villes. Vous passez un câble, vous avez déjà toutes les conduites
qui sont là. Tout le dispositif qui est là.
Vous faites seulement glisser votre câble, vous ne venez pas creuser. Et ici, on jette le sable, on creuse, on fait comme on veut, et ça, ce n'est pas très appréciable. Donc, les normes, nous sommes en train de faire un effort, parce que le ministre de l'Industrie l'a dit, c'est de sa compétence, mais ça doit être fait par chaque département ministériel concerné. On a constaté, c'est le ministre qui l'a dit, que lorsque on n'a pas des normes, on ne sait pas avoir des prix fixes. Aujourd'hui, une route en asphalte peut coûter de 500 000 dollars à 3 millions de dollars parce que les matériaux, la qualité, les normes ne sont pas comprises. Et on doit se dire la vérité. Mais lorsque vous faites une route avec, une fois que vous avez fait votre base, vous mettez une route avec une épaisseur de béton de 15 ou 20 cm, une largeur, une hauteur, vous connaissez la qualité, vous connaissez tout de suite le prix au mètre cube. Donc il n'y a pas à tergiverser.
Un autre aspect, quand j'ai suivi tout le développement que vous avez fait autour de la ville de Kinshasa, il y a lieu de se poser la question s'il existe vraiment une politique de l'aménagement du territoire.
C'est ce qui ressort du SOSAC. Et encore une fois, la prérogative numéro un des provinces, qui est l'article premier, c'est l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, nous avons, au niveau du gouvernement central, puisque nous avons deux pouvoirs, il ne faut pas l'oublier, nous avons le pouvoir central et le pouvoir décentralisé des provinces. Les provinces doivent avoir leur plan d'aménagement. C'était quelque chose d'oublié. Sachez que, par exemple, moi, dans mes gouvernements provinciaux, le ministre en charge de l'aménagement du territoire était le préséant. Parce que c'est de là d'où part toute la politique sécuritaire, toute la planification sur la santé, sur l'éducation, sur la mobilité, les routes, etc. Ça part de l'aménagement du territoire. Donc, nous avons l'avantage d'avoir un ministère et qui est en train de faire un plan national, mais qui devrait être fait à partir des plans provinciaux. Comme je vous dis, Kinshasa a déjà l'avantage. Il y a eu quelques projets, des plans d'aménagement, mais qui doivent avoir force de loi. Je vous dis, par exemple, j'ai laissé quelques PPA, donc des plans particuliers d'aménagement, route Bangoka, Bouta, Iziro, Wacha, Bunia, en 2015. Mais après, tous les documents ont disparu. Pourtant, j'avais couché ça par arrêté, avec des plans définis, mais on ne respecte pas ça. Donc, il nous faut un plan d'aménagement national basé sur des plans d'aménagement provinciaux et dans chaque entité territoriale pour que nous puissions savoir où va se faire l'agriculture, où va passer une route, où va passer les câbles électriques, où vont passer les conduites d'eau, etc., etc. Donc on ne peut pas continuer à occuper le sol en désordre.
Un autre aspect dans la construction, il faut construire, il faut respecter les normes, c'est bien, mais il faut sécuriser son titre foncier.
Et c'est là où on a eu l'avantage d'avoir l'atelier sur le financement du logement avec la SFI Groupe Banque Mondiale. Parce que vous savez, ici aujourd'hui, personne n'a accès au financement du logement qui, normalement, dans beaucoup de pays, nage entre 2 et 6% d'intérêt bancaire. Ici, les taux sont très chers, sont entre 12 aujourd'hui et 20%. Et la SFI Groupe Banque Mondiale a adopté donc un nouveau programme sur l'Afrique qui est celui de l'amélioration des cadres de vie, du développement des villes, comme nous sommes en train de le faire aussi. Pour cela, le ministre des Affaires foncières était là, au niveau national et provincial d'ailleurs. Il faut sécuriser les titres, parce que c'est la garantie. Deux, il faut sécuriser les actes urbanistiques, le permis de construire. On a déjà eu des procès, vous vous rappelez, moi-même j'en ai été victime. J'ai un permis de construire en bonne et due forme, mais vous êtes attaqué. Et puis quand vous avez pris un crédit bancaire, c'est vous qui devez payer ces intérêts parce qu'on n'a pas encore un système qui vous garantisse vos actes donc fonciers et urbanistiques. Une fois que ça va être fait, et il y a un programme qui va se mettre en place donc pour accompagner le gouvernement, avec la justice aussi qui va être impliquée, parce que ça doit aller vite. Très rapidement, si jamais il y a un déficit, le prêteur, donc la banque, peut récupérer son titre. On n'aura pas de banque de l'habitat. D'expérience, ça n'a pas beaucoup marché, comme on a eu l'occasion d'entendre les Sénégalais. Il y avait quand même la banque de développement du logement du Sénégal. On a eu l'occasion d'écouter des gens de Bangkok, des États-Unis, d'Afrique du Sud, du Maroc, etc. Mais l'approche de la SFI, groupe de la Banque mondiale, est de mettre des fonds aux banques à des bons taux, mais pour lequel elle veut aussi garantir que les banques pourront récupérer. Et ils ont parlé des taux légèrement supérieurs à 5%. Si eux mettent des bons taux à la disposition des banques, que les banques soient assurées avec les compagnies d'assurance, je crois qu'on pourra mettre en place le logement. Parce que la politique mondiale, c'est qu'il faut un toit pour chacun. Chacun doit avoir un toit, doit pouvoir accéder à une maison.
Un toit pour chacun, vous êtes dans le domaine de la construction, dans le domaine du ciment avec PPC. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les matériaux de construction sont à la portée du Congolais moyen pour lui permettre d'avoir un toit, comme vous le dites?
Oui, le ciment est là, le sable est là, la caillasse est là, le fer à béton est là. À l'époque, on avait 18 dollars pour un sac. Aujourd'hui, il nage à l'usine entre 7 et ici, Kinshasa, 8-9. C'est le transport qui est cher pour qu'on n'arrive pas à emmener le ciment au Kassai, il y a des bons prix à l'Équateur. Mais nous sommes aujourd'hui, nous avons lancé un défi avec PPC, c'est d'emmener les produits vraiment le plus près du consommateur. Mais nous nous battons contre la plus grande charge qui représente 40 à 60% et parfois même à 100% dans beaucoup d'autres endroits, c'est la logistique, le transport. Donc les matériaux sont là, les architectes sont là, tous les secteurs du métier de la construction sont là, des travaux publics sont là. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de vous dire que nous avons décidé de transformer l'ASBL Expo Béton en une structure qui va fonctionner comme une chambre de commerce des métiers de la construction, des travaux publics, infrastructures et du développement de villes, où nous aurons la question des réformes institutionnelles, nous aurons les questions des infrastructures, des bâtiments, travaux publics, de l'aménagement de territoire, les architectes, toutes les corporations pourront être membres chacun dans son département et nous devons vraiment encadrer. J'ai visité des pays comme l'Égypte où le domaine de la construction est un domaine, on dirait même sacré, tellement on en donne l'importance aux ingénieurs, aux architectes, parce que c'est eux qui finalement permettre que la vie du citoyen soit bien faite. Et ces personnes doivent intégrer aussi l'administration. Parce que si dans l'administration, on a des personnes qui ne comprennent pas... Moi, à l'époque, quand je fais un plan pour que Météo puisse avoir juste une devanture pour les artisans des meubles, qui est un commerce très bien. Moi, je peux vous dire, en 96-7, moi, j'ai acheté des meubles à Météo que j'ai exportés en Italie. Donc, il faut encourager ces métiers-là. Et on sait que c'est là qu'on le fait. Mais quand j'ai fait ce plan, j'ai été surpris au ministère de l'Urbanisme. Plutôt, on a loti tout Météo et on n'a rien laissé aux artisans. Et c'est la même chose aujourd'hui. Toutes les rues, on voit des gens qui font des annexes ou bien qui ouvrent des fenêtres, ils construisent derrière, ils font un commerce. Non, il faut des immeubles pour que les commerçants puissent s'installer. Et nous disons ceci, nous devons rendre la construction moins chère. Moins chère, ça veut dire que il faut peut-être détaxer, défiscaliser, parce que la construction aujourd'hui coûte entre 700 et 1500 dollars le mètre carré. Vous allez en Ouganda, on est à peu près à 250. Vous allez dans les pays voisins, l'Angola, etc., qui sont beaucoup moins chers. Vous savez que le prix du loyer, par exemple, à Luanda, va de 20 dollars à 100 dollars pour des beaux appartements, parce qu'ils ont été subventionnés. Mais nous disons au gouvernement que nous devons rendre l'accès à la construction facile. Pourquoi ? Parce que, un, ça permet l'investissement privé. Je peux vous donner des chiffres. Sur 150 millions de dollars de ciment vendus dans la partie ouest, les privés mettent 800 millions de dollars pour construire leurs ouvrages, donc leurs bâtiments. Et ils mettent 1 milliard de dollars pour équiper, donc en commerce, meubles, etc. Ça vous fait près de 2 milliards de dollars qui sont investis par le secteur privé. Et l'État retire maintenant facilement des impôts et des taxes, parce que les établissements sont dans des bâtiments connus et pas derrière des portes cachées. Donc l'État a tout intérêt à soutenir la construction, parce que dans la ville de Kinshasa, on ne sait pas faire l'agriculture, n'est-ce pas ? Chaque jour, c'est un peu différent la pression de Kinshasa par rapport à nous, les provinces à l'intérieur, où quelqu'un peut faire 3 km, il va dans son champ, mais ici, on ne sait pas le faire. Donc on doit donner du travail. Et dans tous les pays du monde, c'est le bâtiment qui a permis de juguler la crise du chômage. Et si nous faisons un bon plan pour promouvoir la construction de nouvelles villes, si nous avons des immeubles qui poussent à Maluku, à Mongafula, à Nsele, etc., vous allez voir que le domaine de l'emploi va être vraiment très, très, très résolu. Parce qu'aujourd'hui, on compte à peu près dans la construction 650 000 personnes, mais nous pouvons atteindre 2 millions.
Grande interview reçoit Jean Bamani Sassaïdi, président d'Expo Béton, député national et gouverneur honoraire. Avec lui, nous parlons de la 5e édition du salon Expo Béton qui s'est tenu à Kinshasa du 1er au 4 décembre dernier. Il faut dire que à la 5e édition du salon Expo Béton, vous avez associé des universités à travers un concours notamment.
Oui, toutes les éditions, nous associons les universités. Mais cette fois-ci, la formule était différente. Ils ont plutôt apporté les travaux. Ils sont passés devant un concours. Les autres fois, c'était des concours dans des salles qui étaient beaucoup plus didactiques. Et d'ailleurs, dans Expo Béton, qui va fonctionner comme une chambre, il y aura tout un département de la jeunesse, de l'enseignement. Nous voudrions aussi avoir l'INPP comme partenaire. Nous avons déjà l'ANAPI comme partenaire qui permet de détaxer certains projets, mais nous devons former cette jeunesse au métier.
Il y a un besoin de réorienter notre éducation vers une université, un institut supérieur qui apporte plutôt des solutions aux problèmes quotidiens.
Je vous dis, Alain, le futur de l'Afrique, c'est les villes, parce que dans 30 ans, il y aura plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes. Mais nous devons rendre ces campagnes aussi attractives. C'est par des projets agro-industriels, c'est aussi par rapport à recevoir correctement ceux qui sont dans les villes. Et donc, c'est un phénomène qui est là, qu'on ne sait pas très bien arrêter, mais nous devons en même temps donner des réponses qui sont l'exode urbaine, donc de la ville vers l'intérieur, parce que la population croît, on ne sait plus l'arrêter, elle ne fait que augmenter. Et donc, nous devons aussi apprendre aux jeunes à aller dans les métiers de la construction, qui est le domaine qui emploie le plus de monde dans beaucoup de pays.
Pour terminer, un message à tous ces millions de Congolais qui vous suivent en ce qui concerne le développement de nos villes et de nos cités.
Nous disons que nous devons repenser nos villes, nous devons être prudents. Si nous voulons faire quelque chose aujourd'hui sur l'embellissement ou l'amélioration des conditions de la vieille ville, nous devons bien le réfléchir.
Jean Bamanissa Saïdi, je rappelle que vous êtes président d'Expo Béton, député national et gouverneur honoraire. Merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
Alain, merci, c'est moi qui vous remercie. Et donc, je remercie aussi tous nos auditeurs. Expo Béton va aussi se déployer dans les autres villes, Goma, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, pour réfléchir encore avec eux sur l'extension de leur ville.
Merci.
Merci.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et supervision, Alain Hirung Mouchenge. Coordination, Michel Kifindangoy. Vous pouvez suivre et télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de grande interview en allant sur www.radiookapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.